L'info Médor sur Chéri avec Leslie Reimenhams. Ce mois-ci, dans ma rue, je vends.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans l'Info Médor, le podcast qui dévoile les dessous du magazine d'investigation 100% belge et collaboratif. L'histoire du jour se passe dans la rue, à l'abri des regards, sauf pour ceux qui savent quel regard il faut croiser. Voici les 8 étapes du deal. Comment devient-on dealer? Comment être adoubé par le petit cercle fermé des narcotrafiquants? Pourquoi est-ce qu'un jour on en vient à ramasser les miettes des grossistes et des mafias internationales? Pour répondre à ces questions, j'accueille Karim Aïd Kassem. Bonjour.
Bonjour.
Karim, vous avez 46 ans. Adolescent, vous viviez à Gennevilliers, dans une cité de la banlieue parisienne. Et à vrai dire, les mains qui se chevauchent furtivement pour refiler quelques grammes de shit ou de cocaïne, vous en avez été témoin, mais plutôt de loin.
Oui, plutôt de loin. Même si c'est, on peut dire, des collègues à moi, des amis à moi, que j'ai vu tomber dedans, d'une certaine manière. C'est une idée fausse, l'idée que c'est ouvert à tout le monde et qu'il suffit en fait de le vouloir pour pouvoir trafiquer de la drogue. En fait, c'est un milieu qui est très très fermé avec des codes à respecter, notamment pour moi qui avait une structure familiale assez forte avec une mère qui n'hésitait pas à sortir par la fenêtre pour m'appeler pour rentrer à la maison à partir du moment où les lampadaires étaient allumés. Mais voilà, on peut pas traîner le soir et c'est vraiment des... c'est un groupe qui va se former plutôt le soir avec des jeunes qui vont traîner en fait.
Vous parlez d'un milieu très codifié, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut faire ses preuves?
Il faut faire ses preuves, hein, notamment par la maîtrise de la violence. Hein. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur, la violence. Mais voilà, c'était les jeunes qui tombaient dans le trafic de drogue, c'est des jeunes qui n'hésitaient pas à se battre. Fallait pas forcément être costaud, hein, fallait avoir le tempérament et ne pas hésiter à défier les autres et à répondre aux défis. Et puis,
être téméraire, quoi.
Oui, moi je préférais plutôt éviter les défis. Donc voilà, c'est tout des codes qui à un moment ou à un autre, les faisaient basculer dans le trafic de drogue et puis qui fait que c'était pas accessible à tout le monde.
Alors pour le magazine Médor, vous avez rédigé « Dans ma rue, je vends ». C'est une enquête, hein, une enquête pour comprendre comment des jeunes tombent dans le deal. Votre volonté, c'était quoi? C'était de dédiaboliser le petit dealer?
C'est vrai que, comme vous dites, hein, il était diabolisé quand même. Le dealer, je ne suis pas là pour lui trouver des excuses au dealer, mais c'est vraiment une figure diabolisée dont on n'essaye pas de comprendre les ressorts et pourquoi il fait ça. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qui amène ces gens-là. C'est pas le goût du mal ou de faire le mal. Il y a vraiment tout un enchaînement de situations. Il y a vraiment des raisons pour lesquelles ces jeunes vont devenir dealers. Et moi, ça m'intéressait de comprendre pourquoi.
Alors, pour mener votre enquête, vous vous êtes rendu en IPPJ. Hein, vous êtes d'ailleurs opérateur socioculturel. Vous créez une fiction radiophonique avec des jeunes. C'était facile de les mettre en confiance? Est-ce qu'ils se confiaient facilement?
Oui, hein, c'est à partir du moment où on trouve le bon bouton, d'une certaine manière, ben ça sortait vraiment d'un coup. Après, il y a une mise en confiance. À partir du moment où ils comprennent qu'on n'est pas dans le jugement, mais qu'on est dans la compréhension, ils ont vraiment une soif de raconter leur histoire. Ça les soulage vraiment de la raconter de la façon la plus authentique possible, d'essayer de faire comprendre à l'interlocuteur que j'étais les différents ressorts. C'est vrai que c'est des jeunes qui sont tellement compressés, ils doivent faire vraiment attention à tout ce qu'ils disent à l'IPPJ, parce que tout ça joue sur le jugement qu'on va poser sur le fait qu'ils peuvent sortir de l'IPPJ ou pas, parce qu'ils y sont pour 3 mois, mais qui sont renouvelables à chaque fois que les éducateurs et le juge, in fine, décident s'ils sont aptes à ressortir ou pas. Quoi, en fait,
hein. Donc là, c'est ça, vous leur offrez une bulle d'air, une bulle d'expression où ça explose quoi, tout d'un
complètement,
coup.
Complètement. Hein, moi, je me mets tout de suite d'accord avec eux sur le fait que tout ce qu'ils disent, on peut l'enlever après coup hein, avec le montage. Et souvent, ils me disent, non, tu laisses tout. Et puis, c'est un moment où tout sort, tout explose, mais qui est canalisé aussi par ma connaissance. Moi, j'ai lu beaucoup de sociologie de personnes qui ont observé ça. Donc, voilà, quand ils délirent un peu trop, je peux leur opposer la réalité quand même quoi, et canaliser ce qu'ils peuvent dire.
Karim Aïd Kassem, vous êtes en contact avec des mineurs qui sont dans 95% des cas en fait tombés dans le deal extrêmement tôt. Pourquoi c'est si rapide? Qu'est-ce qui se joue avant 18 ans?
18 ans, c'est des jeunes qui connaissent très très bien la loi en fait. Hein, le fait que Avant 18 ans, il y a très peu de chances pour eux d'aller en prison, la vraie prison, hein, celle où il y a les majeurs. Et donc, ils vont aller dans des centres ouverts ou, si c'est plus grave, fermés en IPPJ et qu'ils vont avoir la possibilité de rentrer en week-end. Ce sera moins grave, que ce ne sera pas forcément inscrit dans leur casier judiciaire. Donc, ils ont une... Entre 12 et 18 ans, ils ont la possibilité de pouvoir accumuler de l'argent. En tout cas, c'est l'idée qu'ils ont en tête et qu'on leur met en tête. Hein. Et donc, il y a toute une hiérarchie dans le trafic de drogue qui va leur mettre ça en tête, qu'avant 18 ans, ils peuvent vraiment s'adonner au trafic et prendre tous les risques parce que c'est le moment où ils peuvent accumuler de l'argent. Arrivé 18 ans, leur idée, c'est de prendre leur retraite et de pouvoir se recycler dans des commerces légaux avec l'argent qu'ils ont accumulé. Mais là, ça se passe vraiment, vraiment pas comme ça dans la réalité, en fait.
Et puis ça se passe par étapes, dès le plus jeune âge, comme vous dites dans votre enquête dans ma rue au début. Mais la première étape, vous dites, ben, les poches sont vides et c'est là qu'on se lance petit à petit dans le deal et ça va crescendo. Ça devient aussi de plus en plus simple.
Exactement. Hein. Donc, y a toujours une situation préalable où il n'y a pas d'argent. Pour les cas les plus critiques, c'est vraiment la pauvreté extrême. Aucune possibilité de s'acheter un sandwich à midi, ne demande pas d'argent par rapport à ça. Et les sorties scolaires, n'y pensons même pas.
Ces jeunes et ça n'ose pas trop non plus demander à papa, maman, qui n'ont pas les moyens pour nous offrir un sandwich. Les sorties scolaires, justement, c'est comme ça qu'on va tomber.
Exactement. Papa, maman, on fait des promesses. Souvent maman, hein, parce que le papa, souvent, dans les cas que j'ai vus, c'est des mères qui élèvent leur enfant tout seul et que le père est parti pour différentes raisons. Et donc, la mère fait souvent des promesses auxquelles elle croit. Hein, bientôt, on aura une situation financière, mais finalement, le jeune perçoit très vite que ses promesses ne sont jamais tenues. Et donc, à cette idée, qui va être encouragé avec tous les jeunes qu'il va pouvoir côtoyer le soir, de faire les choses lui-même, surtout cette idée de « on est des hommes, on peut se débrouiller, et puis on va aider notre mère ». Et donc, tout ça va crescendo. Et ça peut être pour s'acheter un sandwich à midi, un paquet de cigarettes, mais aussi parce qu'on rêve du dernier smartphone ou de telle paire de chaussures qui suscite l'admiration quand on arrive à l'école.
En fait. Petit à petit, c'est toujours plus, c'est évolué. Hein. Il y a quand même toujours ce moment où ça pète, où il y a la police qui va débarquer, où c'est le passage par les services de protection de la jeunesse.
Hein. Exactement. Mais moi, ça m'a vraiment frappé. Il me disait... quand on commence dans cette carrière, entre guillemets, hein, vous mettez beaucoup de guillemets même, on est sûr qu'on va se faire attraper à un moment ou un autre par la police. Moi, j'ai interrogé la police qui me disait, à un moment ou un autre, ils commettent une erreur, ou on est dans le coin, ou il y a un client qui va les balancer, entre guillemets. Et donc, ils vont se faire attraper à ce moment-là. Et c'est là où la réalité de leur situation apparaît crûment et cruellement même, je dirais, parce que l'argent va revenir à zéro, ils vont se faire saisir du produit, ils vont devoir rembourser ce produit. Et donc, c'est là où ils se disent, en sortant, que tout cet argent qu'ils ont perdu pendant leur détention et la perte de différents produits, toutes les dettes qu'ils peuvent avoir à ce moment-là, il va falloir qu'ils retournent sur leur territoire et qu'ils refassent de l'argent encore plus avant cette date fatidique de l'anniversaire de l'an 18.
Hein. Ouais, donc l'étape en IPPJ, finalement, ça peut, semble-t-il, paraître à première vue, du moins assez contre-productif. Est-ce que, selon vous, y a une solution pour ne pas retomber dans ce système-là?
Oui, hein, après, à ma mesure, hein, ce que j'en ai vu, c'est que déjà, la solution, c'est d'agir sur la pauvreté des parents. Enfin, moi, je pense que ce serait la première des solutions.
Problème à la source, quoi, voilà.
Oui, complètement. Hein, c'est vraiment... Il y a des jeunes qui m'ont raconté des situations qui étaient assez catastrophiques en termes de revenus, avec des problématiques aussi de parents qui consomment, hein, par exemple. Donc déjà, agir socialement sur ces situations-là permettrait de réduire le choix que peuvent avoir ces jeunes-là. Ils savent clairement que pour avoir une belle vie, il y a deux voies possibles. La première voie, c'est être bon à l'école. Et ça permet d'avoir une belle vie, selon eux. Et eux n'y sont pas arrivés à être bon à l'école. Et ça, ils sont lucides par rapport à ça. Et le deuxième choix, c'est le choix que leur offre la rue avec... des exemples imaginaires, parce que personne n'est capable de me les citer. Peut-être que c'est arrivé de personnes qui... était assez malin pour faire des grosses sommes d'argent et pouvoir vivre avec, et puis se recycler dans des commerces légaux. Donc voilà, à partir du moment où ils considèrent que ce n'est pas possible pour eux de raccrocher le wagon de l'école, la deuxième solution est assez évidente. Donc voilà, travailler sur une alternative scolaire adaptée à ces jeunes-là, je pense que ce serait quelque chose qui fonctionnerait vraiment.
L'Info Médor s'intéresse ce mois-ci au parcours des jeunes dealers. Une enquête, il faut le dire, qui a été possible grâce à une bourse mise en place par le magazine. La bourse Inclusion, quand il y a eu cet appel l'année dernière, Karim, vous vous êtes dit que quoi, c'était votre chance d'écrire, d'être publié dans un grand journal, dans un magazine.
Exactement, de la façon dont c'était rédigé. Moi, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait une porte ouverte par rapport à cette bourse. Et donc, moi, ça m'a encouragé tout de suite à proposer ma candidature, surtout que c'est quelque chose d'assez créatif. Il faut se présenter et puis proposer un sujet aussi. Donc déjà, entrer un petit doigt de pied dans cette idée d'être journaliste. Donc voilà, moi, je considère que toute porte ouverte est vraiment salutaire et permet de créer des vocations.
Et qu'est-ce qui vous a appelé dans cette bourse? Le fait que quoi, vous ne vous reconnaissiez peut-être pas dans le profil type du journaliste belge, blanc, universitaire?
Non, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Je vais le dire trivialement, j'ai la gueule d'un arabe, j'ai le nom d'un arabe, donc universitaire blanc de plus de 50 ans, absolument pas. Et du coup, bah oui, donc ça m'a parlé directement. Et puis moi, c'est quelque chose qui me tentait depuis longtemps, cette idée de journalisme. Rien que le titre me plaisait en tant que tel. Et donc, moi, je lisais Médor. Dès que j'ai vu ça, bah, je me suis dit, ça me plaît, cette idée-là, et je vais participer, que je sois pris ou pas après. Il laissait vraiment entendre, déjà dans l'annonce, que même si vous n'êtes pas pris, ça n'empêche pas une collaboration avec eux et qu'ils sont vraiment... qui recherchent des nouvelles têtes pour pouvoir avoir des angles différents, des histoires différentes et aussi un profil différent dans les personnes qui écrivent.
T'essaies d'offrir plus de diversité dans le monde médiatique, justement, qui en parle, mais qui ne le représente pas forcément.
L'Info Médor sur Chéri.
Et sachez qu'un nouvel appel est lancé pour cette bourse journalisme et inclusion. Il vous concerne si vous ne vous reconnaissez pas dans le profil type, homme blanc universitaire, que vous avez un projet d'enquête ou de reportage en Belgique, que vous avez aussi besoin d'un soutien financier pour le mener à bien. Le délai de remise des candidatures, c'est le 15 février. Notez bien cette date. Si vous décrochez la bourse inclusion de Médor, vous serez bien sûr rémunéré pour votre production, salaire auquel va s'ajouter une bourse de 2000 euros, une bourse qui a été remportée l'année dernière par Karim Aït Kassem. Merci beaucoup d'être passé nous voir.
Merci beaucoup, Leslie.
On retrouve votre enquête dans Ma rue, je vends dans le numéro 24 de Médor, celui de l'automne 2021, ainsi que sur le site medor.coop. À savoir que si vous voulez prétendre à la bourse journalisme et inclusion, vous pouvez poser vos questions via l'adresse inclusion@medor.coop ou alors directement remplir le questionnaire sur le site medor.coop. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour dévoiler les dessous d'une nouvelle enquête.
Une info belge, indépendante et participative. C'est l'Info Médor tous les mois sur Chérie.